RMC, les grandes gueules.
D'abord, c'est une dimension contractuelle entre l'entreprise et moi. Comme pour un joueur de foot et un pilote de Formule 1, c'est une dimension contractuelle, il y a un contrat. Ensuite, 90% de mon salaire, il est fait par les résultats de l'entreprise. 90%. Donc, ça prouve que les résultats de l'entreprise sont apparemment pas trop mauvais. D'ailleurs, sur ces critères-là, si vous aviez la performance de mes concurrents, le salaire aurait été beaucoup plus faible. Et puis, au-delà de la dimension contractuelle, il y a la dimension sociétale. Si vous estimez que c'est pas acceptable, faites une loi et modifiez la loi. Et je la respecterai.
Oh, et si j'étais riche, oh, et si j'étais riche, moi. Hey, adieu la charrette.
Alors, c'est vrai qu'il a raison, Carlos Tavares.
Qu'en cinéma, hein.
93% de son salaire, c'est une part de variable, c'est-à-dire une part variable en fonction des résultats. 93% de son salaire. C'est-à-dire qu'en fait, dans le détail, il a 2 millions d'euros assurés. Ça, c'est le fixe. On ajoute à ça des avantages sociaux autour de 634 000 euros. Et puis, à partir de là, ensuite, il y a une part variable. Qui fait partie donc de sa rémunération à 93%, comme les résultats de Stellantis qui dirige le groupe automobile sont excellents, il faut le reconnaître, eh bien le patron de 65 ans peut toucher jusqu'à 36,5 millions d'euros pour l'année 2023. En fait, c'est 23,5 millions d'euros dans un premier temps. Et principalement sous forme d'actions, hein, faut le préciser. Et puis le reste est constitué de bonus qui seront attribués seulement s'il est au rendez-vous d'objectifs fixés pour 2025. Alors souvenez-vous, chaque année en fait, au même moment, il y a une polémique autour de son salaire. En 2022, il avait touché 23,5 millions d'euros. En 2021, 66 millions d'euros. Et à l'époque d'ailleurs, le gouvernement était monté au créneau. Emmanuel Macron estimait que son salaire était excessif. Bruno Le Maire l'avait dit également, mais depuis, il s'est rien passé. Alors Tavares, il dit, bah écoutez, c'est un contrat. Si vous trouvez que ce n'est pas acceptable, faites une loi. Alors faut-il faire une loi pour plafonner le salaire des grands patrons? Tout d'abord, ce salaire est-il justifié ou pas? Le 32-16 pour intervenir, Mourad Boudjelal.
Moi, je suis très partagé. Je pense qu'on peut revendiquer des sommes pareilles lorsqu'on prend des risques. Un entrepreneur qui prend des risques et qui va engager ses biens, ou voire même engager ce qu'il n'a pas, et qui va, grâce à ses compétences et aux compétences de ses collaborateurs, connaître une réussite exceptionnelle, peut toucher des sommes indécentes qui peuvent correspondre quelque part à l'indécence des risques qu'il a pris. Là, on parle d'un salarié privilégié, les propriétaires de rien. Bon, il a des résultats, je reconnais Stellantis, 190 milliards de résultats. Oui. Avec une augmentation de 11% sur cette année, ce qui veut dire, grosso modo, il a ramené 20 milliards de plus. Quand on sait qu'un milliard, c'est 1000 millions, bon, 36 millions à côté, c'est un peu peanuts. On est sur une autre planète. Mais est-ce que, aujourd'hui, Stellantis, qui quand même, est l'association, l'union d'environ une quinzaine de marques, dont une que j'adore, qui est Maserati, est-ce qu'aujourd'hui, on peut attribuer ce résultat à un seul homme?
C'est ça.
Je ne crois pas. Je ne pense pas qu'un seul homme puisse influencer le résultat d'une association de nos 15 marques. Et deuxièmement, aujourd'hui, est-ce qu'avec cette course aux primes, parce que ce sont des primes qui va toucher, dans une société où BlackRock est actionnaire, donc on connaît très bien la mentalité d'une société où BlackRock est actionnaire, même s'ils sont minoritaires, mais BlackRock, même minoritaire, fait la loi, est-ce qu'on n'est pas en train aussi de retirer de la morale aux affaires? À savoir, moi je pense qu'il y a une certaine morale dans les affaires, qu'aujourd'hui, aujourd'hui que la course au résultat, ça peut être au détriment parfois, il y a 36 façons de faire des résultats, ça peut être par exemple en faisant du surlicenciement, ça a été le cas, mais il y a plein de systèmes d'aller uniquement chercher le résultat, voire même, on le voit aujourd'hui, une grande compagnie d'aviation concurrente de Airbus, par moment, c'était au-delà de la sécurité pour aller chercher du résultat. Au-delà de la sécurité, voilà. Donc tout ça, c'est
mais
dangereux.
Il a signé un contrat, c'est ce qu'il dit.
Et entre vous et moi, je veux dire, s'il a une prime de 5 millions pour les résultats, le matin, il se lève à la même heure, quoi. C'est certain. Voilà.
Jean Marty, indécent ou pas? Quand on dit indécent, ça veut dire qu'on met de la morale aussi.
Non, mais je suis un peu comme Mourad. Moi, je suis partagé là-dessus. Je suis partagé là-dessus parce que je crois qu'en matière de salaire ou de gain, il n'y a pas de limite et il ne faut pas qu'il y en ait.
Toi, tu veux pas de salaire plafonné.
Il faut pas qu'il y en ait de limite, parce que ça tire le
pourtant, il y a un salaire minimum en
travail
France.
Peut te tirer très très haut.
Il y a un salaire minimum, mais il n'y a pas de salaire maximum.
Il y a le minimum, mais il
n'y a pas de maximum. C'est bien une seconde, Jérôme. Toi, tu sauves des vies, lui, il sauve des actionnaires.
Les salaires, c'est pas les mêmes.
Je vais y venir, c'est pour ça que je suis de partager. 36 millions, c'est annuel, c'est le salaire de 1200 infirmières.
Mais attends, tu veux que je donne attends un autre comparatif. Je donne un autre comparatif parce que c'est intéressant, c'est aussi comparer, il faut comparer son salaire avec ce que touche un salarié de Stellantis. En 2023, oui. Il va gagner en un jour, il a gagné en un jour ce qu'un salarié de Stellantis gagne en un an. 518 fois plus qu'un salarié moyen. Donc voilà.
C'est aussi la moitié du salaire
on
de
bien
Mbappé.
Payé à Stellantis,
c'est aussi la moitié du salaire annuel de Mbappé.
Oui. Mais quand c'est des footeux, ça choque
pas. Oui, non. Et puis, je rappelle que quelqu'un comme Elon Musk gagne 10 millions par jour.
Oui, par jour.
Et le patron général Motors doit être mieux payé aussi.
Alors après, le côté immoral, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que, à mon avis, il faut pas qu'il y ait de limite. Mais par contre, lui peut avoir un peu d'honneur et peut, par rapport aux salariés de sa boîte, dire, moi, je me limite à temps, je prendrai pas tant, etc., quoi. Je veux dire, il y a un moment où effectivement, tu peux pas. Alors que tu n'es pas le seul à décider, c'est pas vrai. Et alors que tu n'as strictement aucun risque, comme l'a dit Mourad. Ce type n'investit pas dans l'entreprise.
Ce type,
quand il partira, aura un golden parachute qui sera beaucoup plus cher encore beaucoup plus élevé encore que son salaire annuel. Donc il y a strictement aucun risque.
Alors qu'est-ce qu'on fait effectivement, alors? Parce que toi, tu veux pas plafonner alors?
Mais on attend qu'il y ait de l'éthique dans l'entreprise, ouais. C'est ça qu'on voudrait.
On peut toujours attendre.
Mais bien sûr qu'on peut toujours attendre. Mais n'empêche pas que.
C'est naïf.
Ça n'empêche pas.
Siège social aux Pays-Bas.
Non, il y a des entreprises qui sont éthiques. Tu peux très bien avoir des patrons ou des PDG qui le sont.
Lui-même, il devrait renoncer.
Quand on le voit parler, ce monsieur, on l'a vu tout à l'heure, avec une certaine morgue, quand même, qui était intervenue, qui nous a dit, mais moi, c'est contractuel, après tout, vous savez. Il a pris 56% d'augmentation, quand même. Qui, aujourd'hui, en France, quelque part, dans quelle entreprise, dans quel métier, dans quelles circonstances, on peut avoir 56% d'augmentation? Ça n'existe pas.
Et puis, qui
dans la vie réelle, ça n'existe pas.
Si lui-même ne renonce pas.
Si tu veux.
Qui peut revendiquer les résultats d'une telle entreprise?
Est-ce que son entreprise a fait 56% de plus de bénéfices? Tu l'as dit, il y a eu
11%.
Il y a eu 11%. Lui, 56%. Pourquoi c'est USDelta?
Par contre, 50% en bourse.
Pourquoi c'est pas 1 pour 1 à ce moment-là?
50% en bourse.
Il fait 11%. Oui, non, mais.
Ah, bah oui.
Oui, non, mais. 56% en bourse, ça prouve encore une fois que les gains des gens qui investissent en bourse sont plus importants que les gains qui font tourner dans l'entreprise.
Moi, je l'en veux surtout parce que
personne n'est interdit d'investir en bourse. Barbara Lefebvre.
Vous êtes en train de vous émouvoir d'une situation qui n'est rien d'autre que l'hégémonie du capitalisme financier, aux dépens du capitalisme productif. C'est-à-dire que moi, je suis pas du tout anticapitaliste. Je pense que le capitalisme régulé et bien organisé, qui est tourné vers la production, ce qui n'exclut pas l'enrichissement des grands dirigeants d'entreprise, mais un enrichissement qui soit proportionné à la production réalisée. Or là, on n'est plus du tout dans la question du capitalisme productif. On est dans le capitalisme financier qui s'auto-alimente par, en réalité, un monde parallèle qui est le monde parallèle des actionnaires et qui n'est donc absolument pas le monde ni des patrons, ni des salariés. Je rappelle quand même que une enquête a été faite auprès des patrons de TPE-PME français. 70% des patrons de TPE-PME touchent moins de 4 000 euros, et 20% d'entre eux sont en dessous du SMIC, les patrons de TPE-PME. Voilà. Donc, et je pense que c'est les patrons de TPE-PME qui font vivre le tissu économique réel, du monde réel. Bien sûr, Monsieur Tavares est dans le monde réel puisqu'il produit des voitures, donc évidemment, les voitures, c'est utile pour
se
déplacer. Mais ceci étant, ce tissu économique des entreprises qui fait vraiment vivre un territoire, c'est d'abord le tissu des TPE-PME, et eux, ils sont au chou. Et par contre, ils subissent un impôt sur les sociétés qui est largement supérieur en proportion à l'impôt sur les sociétés que ne verra jamais Monsieur Tavares pour Peugeot, qui par ailleurs fait des bénéfices pas seulement en France. Donc moi, ce que je trouve indécent, c'est le système global du capitalisme financier qui vient contredire la réalité d'un capitalisme productif qui est celui des TPE-PME.
C'est comme les grands joueurs de foot. Ils ne sont pas nombreux.
Non, mais alors ça.
Je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Ce sont comme les grands joueurs de foot. Ils ne sont pas très nombreux. C'est-à-dire ceux qui touchent énormément d'argent.
Il y a une concurrence.
Ils sont quelques-uns. Et Tavares, peut-être que son salaire est indécent, mais tout le monde reconnaît que c'est un type brillant, que c'est un passionné d'automobile, hein, donc il fait ce métier pas pour rien.
Avec une concurrence mondiale.
Et qu'il a réussi partout où il est passé.
D'accord. Tavares. Alors, si tu me permets un petit comparatif historique.
C'est un ingénieur centralien.
Si on regarde, si on pense à 1789 et à la bronca contre les privilégiés, c'est-à-dire la noblesse et le clergé en 1789, une partie de la noblesse et une partie du clergé étaient des privilégiés en termes de statut, mais c'était pas pour autant des gens très riches. Néanmoins, symboliquement, la question des privilèges était quelque chose qui devenait insupportable à la société française.
Tavares, il est tellement bon, il est jamais allé jouer un euro à lui. S'il était si bon que ça, au bout d'un moment, il aurait dit attendez, moi je suis le meilleur, je vais aller jouer avec mon argent pour gagner 100 fois plus.
J'ai pas pu finir ma phrase.
Chacun termine sa phrase.
Voilà, j'ai pas pu finir ma phrase. Donc je suis d'accord avec toi, c'est peut-être symbolique, mais c'est les symboles qui font souvent les conflits sociaux et qui font surtout les divisions d'une société. Donc aujourd'hui, bien sûr,
Tavares, qu'on paiera mieux les infirmières. Il n'y a pas de lien.
On les paiera moins bien parce qu'il y aura moins d'impôts.
Si tu veux. Ce sont des entreprises privées. C'est effectivement contractuel. Alors là, ce qu'il pourrait y avoir, c'est effectivement dans un pays qui serait très interventionniste sur les entreprises, tu pourrais très bien avoir une loi qui définit les contrats, etc. Sauf que c'est des entreprises privées, donc tu ne peux pas le faire.
Excusez-moi,
ça serait bien qu'on applique ce système de primes à nos gouvernants, ça ne coûterait pas cher, des primes de résultats. Ouais.
J'ai juste pas fait une comparaison par rapport au statut des privilégiés. Je dis simplement qu'à un moment donné, il y a des situations d'inégalité qui ensuite ne n'utilisent que des symboles. Voilà ça que je veux dire. Ça ne veut pas dire que Monsieur Tavares.
Oui, mais on trouve toujours quelqu'un plus riche que toi.
Mais Tavares ne peut pas s'attribuer à lui tout seul les résultats de Stellantis. C'est pas possible.
Non.
Il y a une histoire déjà. Il y a 15 marques de voitures qui apportent un capital, que ce soit Alfa Romeo, que ce soit Peugeot, que ce soit Maserati. Il y a une histoire. Oui, donc déjà, il démarre avec une histoire. Ensuite, il y a un contexte. Il y a, j'imagine, des armées de collaborateurs, des armées de dirigeants. Je veux dire, et c'est un ensemble, c'est un collectif, j'ose dire, qui va obtenir ce résultat sur un marché.
Quand on l'entend parler sur sa cour d'intervention,
on a l'impression qu'il gère une PME.
Oui, non mais.
On a l'impression qu'il gère une boutique, il dit c'est moi qui ai le résultat.
Non, c'est pas lui seul. Effectivement, ce n'est pas lui seul.
Bien sûr.
Ça, c'est une évidence. Mais pour autant, on se place dans une concurrence qui est mondiale, sur des entreprises qui agissent sur le monde entier. Et effectivement, comme tu le disais, le nombre de personnes qui sont à même de diriger ces consortiums de l'entreprise sont très peu dans le monde et tu as une forte concurrence entre les entreprises. Donc, c'est ça qui tire les prix vers le haut.
Il y a Carlos Ghosn, mais il a un problème de mobilité.
Exactement, comme d'ailleurs, sur le mercato, c'est pareil.
Il y avait les mêmes polémiques sur Carlos Ghosn, avant. Souvenez-vous. Et en fait, Tavares a remplacé Carlos Ghosn dans les politiques. Polémiques. Bon, est-ce que vous êtes choqués?
En fait, ce qui nous emmerde le plus, c'est que les 36 millions, soient pas nous qui les touchons.
Est-ce que vous êtes choqués par ce salaire de Carlos Tavares qui sera en discussion à Amsterdam aujourd'hui lors de l'Assemblée générale des actionnaires de Stellantis, à vous de le dire. Adam et Johan sont déjà avec nous 32-16. A tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le salaire démentiel de Carlos Tavares, 36,5 millions d'euros pour l'année 2023. Ça fait réagir les grandes gueules, Mourad Boudjelal, Jérôme Marty, Barbara Lefebvre. Ça vous fait réagir également au 32-16. Nous sommes avec Adam. Bonjour Adam.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Bonjour. Vous nous appelez de Boulogne-Billancourt, près de Paris, dans les Hauts-de-Seine. Alors, comment jugez-vous ce salaire?
Moi, je trouve ce salaire indécent. Il faut savoir qu'en mars 2020, l'homme le plus riche de France disait, c'est pas une fake news, il disait « les crises nous rendent plus forts ». Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment la réalité. Pendant qu'on demande des efforts aux Français les plus faibles, les Français qui travaillent, eh bien, on favorise les plus riches. C'est Mathieu Pigasse qui a dit que les 500 plus grandes fortunes cumulées du pays sont passées de 200 milliards à 1000 milliards en l'espace de 10 ans. Et dans le même temps, il y a plus de 25% de Français qui sont passés sous le seuil de pauvreté.
Eh oui. Mais est-ce que l'un est la conséquence de l'autre? Pas forcément.
Moi, je pense. Ça. Monsieur le maire veut trouver de l'argent pour enfouir les caisses de l'État et il demande uniquement aux Français les plus faibles et les Français qui travaillent de faire des efforts. s'il veut de l'argent, il faut qu'il se tourne vers ces gens-là qui ont fait des profits.
Mais il paye des impôts.
Il va payer un peu des impôts. Je crois qu'il est résident fiscal français.
Monsieur Tavares, il paye des impôts.
Il prouve qu'il n'est pas si bon gestionnaire que ça.
Comme tous les Français.
Oui, mais ce cadran.
La concentration du capital, on ne peut pas dire le contraire.
L'écart dont qu'évoque Adam, il est réel, c'est-à-dire que les crises successives, post-crise 2008, crise Covid, etc., surtout après, au moment de la crise Covid, ça a conduit à l'enrichissement outrancier d'une petite poignée. Alors bien sûr, c'est une petite poignée, bien sûr, ils payent des impôts, etc. Non, dans une crise, les gros maigrissent et les petits meurent. Là, les gros grossissent encore. Les gros, on continue à grossir. Attends. Excuse-moi, il y a un problème. Comment le CAC 40 peut se porter aussi bien en période de crise? Comment les actionnaires peuvent se gaver autant en période de crise?
Barbara, est-ce que les Français se porteraient mieux si Tavares touchait moins?
Non, mais la question n'est pas là. La question.
Bah si, parce que tu dis les gros
maigrissent. Je me rappelle qu'en 2021, on a déjà eu cette question avec Monsieur Tavares et que Monsieur Macron avait dit ce salaire est choquant et excessif et il avait dit je propose que nous encadrions la rémunération des grands patrons, mais avait-il dit il faut l'accord de nos partenaires européens. Donc on attend toujours comme pour tout le reste, comme pour la question de l'électricité.
Ils ne veulent pas plafonner
ces salaires.
Pourquoi il ne faut pas plafonner les salaires?
Parce que c'est des entreprises privées et qu'à un moment donné, les gens font ce qu'ils veulent. Je veux dire. Pour entendre ce que dit Adam, une partie des résultats du groupe de Stellantis est liée à la voiture électrique. C'est un virage qui a été particulièrement bien pris et on peut l'associer, entre guillemets, à une crise dont il profite. Ce changement
même s'il n'est pas à fond sur l'électrique.
Ouais, mais c'est un virage qu'il a plutôt bien pris. Il a 37% de son chiffre.
Il défonce le diesel. Hein.
Voilà. Mais donc, on peut l'assimiler à une crise, quelque part. Enfin, c'est un élément nouveau dont il profite. Mais après, on ne va pas... Bon, sincèrement, moi, si demain, on a un ministre de l'économie qui nous dit, voilà, l'endettement de la France, il est passé de 120% à 20%, on peut lui filer 36 millions. Moi, Tavares, je le nommerai à Bercy, hein, s'il est aussi bon que ça.
Vous préférez Carlos Tavares à Bercy que Bruno Le Maire?
Il me semble. Mais ça serait plus vite. Si on a les résultats de Stellantis à Bercy, le pays ira bien.
Ça serait la logique.
Pourquoi ça serait plus logique?
Quel est le parcours de Bruno Le Maire en tant que, justement, ou chef d'entreprise, ou créateur d'emplois, ou etc.?
Aucun.
Bon. Quel est le parcours de Carlos Tavares, qui est parti d'une famille relativement modeste, avec un père, je crois, comptable, une mère,
prof de français,
et qui a cette réussite-là, qui est, tu le disais tout à l'heure.
Il a fait ses études à Toulouse, il a fait
le même de la réussite de l'ancien mérito français.
Je ne le vois pas passer à 12 000 euros par mois en tant que ministre.
Mais justement, mais à ce moment-là, on le met ministre.
On le met à 36 millions.
Il s'enrichira pas par la politique. Non. Il aura un parcours, souvenez-vous de Tapie. Tapie, il était le seul homme politique qui disait « Moi, je suis le seul homme politique que la politique a appauvri.
Ouais. »
Mais un homme politique, il doit être dégagé des soucis financiers. Donc,
Tapie, en tant qu'homme politique, il n'a rien
preuve,
fait.
Il n'a pas de preuves à donner, monsieur Tavares. Moi, je le verrais bien, effectivement, ministre de l'économie. Ça me semblerait beaucoup plus logique. Qu'on le sorte immédiatement de Renault, de son entreprise.
On lui fait une prime au résultat.
À Bercy. Et qu'on mette, je propose qu'on mette monsieur Le Maire à la tête de Stellantis.
Ah bah non, parce que.
Alors, par contre, si monsieur Le Maire est à la tête de Stellantis, vendez vos actions.
Voilà. Non, mais pour qu'on voit si immédiatement les actions baissent, ce qui serait un signe fort, quand même.
Alors, on va remercier Adam et on va prendre Johan qui est avec nous. Merci Adam. Bonjour Johan.
Bonjour Johan. Bonjour.
Vous appelez de l'Aube à Laine-aux-Bois, c'est ça? Je crois
qu'il n'est pas assez payé, Johan.
C'est ça. Oui. Alors, en partie oui, sauf que je vais te surprendre moi parce que je suis. Moi, je ne suis pas choqué en fait. Moi, ce qui me choque plus, c'est un peu la cabale qu'on a contre la réussite. Je vais vous dire, moi, ça fait 7 ans que j'ai créé ma structure. Ouais. Et si un jour j'ai ce niveau de rémunération, j'en serais très heureux.
Oui, mais tu as créé ta structure, tu prends des risques.
Oui,
Tavares, il n'a pas créé Stellantis.
Alors là, j'ai aussi un point. Alors globalement, je suis assez d'accord avec ta vision des choses. Simplement, je mettrais juste un bémol. Je pense que il y a deux types de patrons, si tu veux. Il y a des entrepreneurs, il y a des gestionnaires. Tavares, c'est peut-être plus un gestionnaire. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as des entreprises, et tu t'en connais autant que moi, j'imagine, qui ont pu faire faillite avec leurs créateurs et qui ont prospéré avec un nouveau gestionnaire, par exemple.
Il y a même des mecs qui sont spécialisés dans le rachat d'entreprises en difficulté et qui les relancent.
On est d'accord. Je vais te donner un
exemple. On sait comment ils les relancent ici.
Alors, je vais donner un autre exemple un peu parlant, parce que pour le coup, il y a des réussites des deux côtés. Tu prends une boîte comme Apple. Aujourd'hui, elle a explosé en termes de capitalisation et en termes de valeur grâce à Tim Cook. Qui est plus un gestionnaire que Steve Jobs, qui était lui un pur créateur. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on peut pas opposer les deux. À un moment donné, il y a une réussite, tant mieux pour lui. C'est des contrats.
Là, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a une prime à la création qui doit pas être la même que la prime d'un gestionnaire. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout.
J'entends ce que tu dis, mais le point,
la création, c'est un vrai talent, quoi. C'est un vrai.
Il appelle le développement aussi.
Le développement aussi s'en éteint, si tu veux. Encore une fois, tu as des entreprises qui sont restées avec leurs créateurs et qui ont coulé. Et donc, des personnes ont perdu leur emploi, etc. Donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est que simplement, il y a une réussite, c'est un contrat privé, il a une mission à réaliser. S'il a réussi, tant mieux pour lui. Je vois pas pourquoi on irait encadrer ça. Enfin, honnêtement.
La question, Johan, que beaucoup de monde se pose, que moi je me pose, c'est que fait-il de tout cet argent? Parce qu'il touche cela chaque année.
Et s'il en a trop, on peut l'aider à le dépenser, il n'y a pas de problème.
66 millions en 2021, 23 en 2022, et là, donc autour de 36. Parce qu'une fois que tu t'es acheté 10 baraques, hein, tu vas pas t'en acheter 10 chaque année. Une fois que tu as fait plaisir à tes enfants, tu les as mis à l'abri, une fois que tu as créé ta fondation, et que bon, t'as un train de vie qui est confortable, t'as un jet, t'as du personnel, mais bon, forcément, il t'en reste beaucoup à côté. Donc, est-ce qu'il a besoin d'autant d'argent? Et moi, je me demande si on n'est pas dans l'ego. C'est-à-dire que Tavares, il doit se dire, si je touche moins que mes camarades américains, je suis pas dans le game. Donc on est un peu dans une bataille d'ego aussi.
Je pense que nous discutons d'un monde que même Mourad, qui pourtant a fréquenté des gens fortunés, on n'est même pas dans ce monde-là. Le monde des Musk, des Jeff Bezos, des Tavares,
Bezos, c'est la Ligue 2 par rapport à
oui, mais ça reste quand même un monde, les Bernard Arnault, les Bettencourt, etc.
C'est un autre monde.
C'est un monde parallèle. Ces gens-là, excusez-moi, c'est un monde parallèle. Ils ne savent peut-être même pas que le salaire moyen en France, c'est 2630 euros net. Ils ne savent pas ça. 2630 euros net, eux, c'est comme donner un pourboire. Donc, je veux dire, on discute de gens qui sont sur une autre planète. Voilà.
Gagner de l'argent, ça va pas devenir un délit.
C'est le capitalisme financier, c'est tout. Je dis que c'est une autre réalité.
Revenons sur Tavares.
C'est un monde parallèle.
Ce que je reproche, moi, à ce système financier, c'est qu'en fait, ils peuvent que gagner. Parce que si son entreprise, tout d'un coup, perd de l'argent,
il sera viré.
Lui, il va partir avec un golden parachute.
Oui.
Donc il va gagner encore plus. Donc il n'y a pas de risque. C'est pas des capital risqueurs. Il y a aucun risque. Il ne peut que gagner. C'est tout le temps.
Moi, ce que je reproche, c'est que sur les 189 milliards de résultats qu'il a fait, il a surtout fait gagner de l'argent à des retraités en Floride.
Ça s'appelle le capitalisme financier.
Mais alors je suis désolé, rien n'empêche Barbara Lefebvre d'avoir des actions. Parce que j'adore, on tape toujours sur les actionnaires. Mes actionnaires, rien ne t'empêche, Barbara, même avec un salaire de prof, d'acheter quelques actions de Stellantis et d'en profiter.
Le fonctionnement du capitalisme financier par actionnariat, etc., tel qu'il était au 19e siècle, ça permettait précisément, d'ailleurs, parfois, à certaines petites classes moyennes d'aller acheter des actions, etc. Aujourd'hui, encore une fois, c'est une autre dimension. Comme le dit Mourad, c'est pour les BlackRock, c'est pour les grands fonds de pension.
Mais non, c'est pas d'accord.
Ce n'est pas pour les petits actionnaires. Non, et moi, justement, alors aujourd'hui, dans le système de ce capitalisme financier que je déteste, je ne vais certainement pas aller acheter des actions parce que d'abord,
parce que
les actions que
l'État
je vais acheter.
Gère mieux.
Je vais en acheter deux ou trois parce que je n'aurai pas les moyens d'en acheter beaucoup. Et pour aller engraisser M. Tavares, ça me ferait bien mal.
Si on avait confié nos retraites en partie. À ce capitalisme aujourd'hui,
mais ça va venir,
les Français auraient des meilleures retraites.
Olivier, ça va arriver. Hein.
Non, on fait confiance à l'État pour gérer notre argent.
Tu crois que la petite classe moyenne américaine, tu penses qu'elle a des retraites à s'éclater le ventre? Non, je crois pas. Moi, je pense qu'aux États-Unis, tu vois même maintenant en Allemagne où on n'est pas sur le système de retraite par répartition, où tu as des retraités qui travaillent, qui se remettent à avoir des jobs. Et moi, je connais dans d'autres pays des pays qui fonctionnent sur le même type de système hyper capitaliste où des gens de 70, 75 ans se remettent à travailler parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre à la fin de leur vie. Donc, excuse-moi, et pourtant, ils ont travaillé toute leur vie. Donc, moi, je suis navrée. Aux États-Unis non plus, fais pas bon la retraite quand tu viens de la classe moyenne ou des classes populaires. Donc là, je pense que Olivier, vous fantasmez un peu la retraite par capitalisation.
Pour compléter ce que dit Barbara, je suis pas d'accord, mais presque. En fait, il y a la confrontation de deux mondes. Il y a le monde de ceux qui travaillent effectivement, qui se lèvent le matin, qui vont travailler physiquement dans un monde réel. Et puis il y a une économie parallèle qui s'est créée, qui est le monde de ceux qui ont de l'argent, qui investissent, et qui vont tirer des revenus de l'inactivité en faisant travailler les autres. C'est un petit peu ce que nous explique Barbara. Et il y a un vrai débat. Alors, on ne va pas changer les modèles. Bien sûr que les deux vont coexister, mais c'est peut-être la répartition qui devrait un petit peu évoluer. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, il vaut mieux avoir un peu d'argent que tu places et laisser les autres travailler, ça rapporte beaucoup plus que travailler. Et l'ancien monde,
c'est le travail.
L'ancien monde, c'est ceux qui se lèvent le matin pour travailler.
Juste un point, Mourad, le capitalisme, lorsqu'il s'est fondé au milieu du 19e, les sociétés par action, il y avait déjà cette partie financiarisée. On est bien d'accord, sauf que le rentier, au 19e, 20e siècle, il était mal vu. Celui qui était bien vu, c'était celui justement qui fondait une entreprise, qui pouvait la société par action, c'est aussi de la financiarisation. Sauf qu'elle était mise à garder à sa place. C'est pas elle qui prenait le leadership sur le capitalisme productif.
Mais là, c'est ça que je dis. Ça s'est inversé.
Ça s'est inversé pour notre plus grand. C'est ça la mondialisation et c'est ça le drame.
Mais tu peux acheter en un quart de seconde la production mondiale d'aluminium de la planète et la revendre dans le quart de seconde de suivant et faire une plus-value sans avoir rien créé.
Et c'est ça qui nourrit un anticapitalisme primaire.
25 fois de propriétaire. Entre le moment où il part et le moment où il arrive.
Enfin, reconnaissez, si on a un problème avec les salaires, en France, ce n'est pas la faute de Tavares. C'est parce que ses salaires.
Tavares, ce n'est pas du salaire, c'est des primes de résultat.
Parce que ses salaires sont trop imposés. Un problème politique. Oui, et quand on entend certains politiques dire c'est scandaleux ce salaire, et on peut avoir un débat, ce sont les mêmes qui alourdissent chaque année les impôts des Français.
Donc c'est bien pour ça qu'au début de notre débat,
je disais pour moi, il faut pas qu'il y ait de limites, mais après c'est à l'homme lui-même de se fixer les limites. Mais il faut pas qu'il y ait de limites. Le politique.
On te dit tu vas toucher Jérôme 36 millions, tu vas dire non.
Mais je te dis, il faut pas qu'il y ait de limites. Moi je suis désolé, mais ce qui me choque profondément, c'est de voir justement des politiques s'étonner de ça. C'est de voir des politiques montrer du doigt Carlos Tavares en disant « Ouh là là, pas beau, c'est trop ce qui touche, etc. » Mais libre à eux, effectivement, à la fois de baisser la fiscalité, libre à eux d'augmenter les salaires de la fonction publique, libre à eux d'investir, etc.
Pas libre, il y a une réalité économique.
Surtout de libérer notre économie et de réussir. Le problème, c'est qu'on a des politiques qui échouent depuis des années. Et la réussite les bloque ou leur fait peur, quoi. Mais c'est dramatique, ça.
Le problème essentiel, c'est qu'on est le pays le plus fiscalisé du monde, donc on est ceux qui payent en le plus un service qui ne marche pas. À ce prix-là, ça pourrait marcher, ça pourrait fonctionner.
Alors, on a posé la question ce matin, c'est 36,5 millions d'euros pour Carlos Tavares. Est-ce indécent ou mérité? Eh bien, c'est indécent pour 71,8%, mérité pour 28,2%. Oui, quand même 28. Ah oui.